VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Bion, bonjour à tous. Les médias à Kinshasa, 5 militants pro-démocratie détenus depuis plus de 5 mois au secret, sans avocat ni droit de visite en République démocratique du Congo, doivent être présentés aujourd'hui devant un magistrat après avoir été transférés au parquet à Kinshasa. Ces activistes du mouvement Filimbi avaient été interpellés alors qu'ils sensibilisaient les citoyens congolais sur la marche des catholiques du 31 décembre 2017, demandant au président Joseph Kabila de s'engager à quitter le pouvoir. Les 5 hommes seront présentés aujourd'hui donc devant un magistrat qui va déterminer leur sort d'après leur avocat. Le président burundais Pierre Nkurunziza a promulgué aujourd'hui dans son palais de Gitega une nouvelle constitution controversée adoptée le 17 mai par référendum et qui lui ouvre donc la possibilité de rester en poste jusqu'en 2034. Pour l'opposition, l'adoption de la nouvelle constitution enterre l'accord de paix d'Arusha signé en 2000 qui avait instauré un partage du pouvoir politique et ethnique. La nouvelle constitution permet au chef de l'État burundais au pouvoir depuis 2005 de briguer deux nouveaux mandats de 7 ans à partir de 2020. Le nouveau texte contesté en vain devant la Cour constitutionnelle par une coalition d'opposition donne par ailleurs les mains libres à M. Nkurunziza qui va concentrer désormais seul tous les leviers du pouvoir exécutif. La crise humanitaire au Soudan du Sud en guerre est en train de s'aggraver dans des proportions alarmantes, a mis en garde aujourd'hui à Nairobi le secrétaire général de l'ONG Norwegian Refugee Council, Jan Egeland. Il a mis en avant le manque de financement des programmes par des bailleurs de fonds sollicités par d'autres crises dans le monde et l'insécurité des travailleurs humanitaires dans le pays. 2 ans après sa partition avec le Soudan du Sud s'est enfoncé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Et concernant le Soudan du Sud, le groupe rebelle de Riek Machar a indiqué hier qu'il était disposé à rencontrer le président Salva Kiir. Claire Morin-Gibourg.
Des pourparlers vont-ils avoir lieu entre les grands rivaux Riek Machar et Salva Kiir au Soudan du Sud? Ateni Wek Ateni, le porte-parole du président Kiir, a déclaré qu'une rencontre entre les deux hommes devrait se tenir fin juin. Mais le SPLMIO, le mouvement de Riek Machar, a démenti ces propos, qualifiés de désinformation, tout en assurant que leur chef, Riek Machar, serait ravi de rencontrer le président Kiir au nom de la paix. Le président soudanais Omar el-Béchir avait offert mardi ses bons offices en proposant d'accueillir des pourparlers de paix à Khartoum. Fin mai, le Conseil de sécurité de l'ONU a menacé les factions belligérantes de sanctions si elles ne parvenaient pas à mettre fin à la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis 4 ans et demi. Cette guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts et près de 4 millions de déplacés.
La carcasse de l'avion disparu des radars mardi après-midi avec 10 personnes à son bord au Kenya a été repérée aujourd'hui par une équipe de recherche aérienne en bordure d'une chaîne de montagnes au nord de Nairobi. Opérée par East African Safari Express et transportant 8 passagers et 2 membres d'équipage, l'avion avait décollé de Kitale dans l'ouest du pays mardi, peu après 16 heures et disparu à 17h20 des écrans radars de l'aéroport international de Nairobi, sa destination finale. Les recherches avaient été compliquées par des conditions météorologiques défavorables et notamment une faible visibilité, alors que le Kenya connaît de fortes précipitations en cette période correspondant à la fin de la longue saison des pluies.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, la région de Mopti vit aujourd'hui dans une insécurité presque totale. Pour trouver des solutions à cette situation, l'équipe chargée d'aider à la réconciliation veut se doter d'un plan d'action de 2 ans, nous dit notre correspondant Mamadou Boukoum.
Cette rencontre entre les acteurs de la réconciliation nationale est un cadre d'échange et de propositions. Un cadre qui permet d'élaborer un document pour mieux maîtriser les actions futures. Ce plan d'action permet de bien préparer les acteurs de la réconciliation afin qu'ils puissent faire face aux défis qui les attendent, comme nous l'explique ici le président de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation nationale, Ali Campo.
L'élaboration de ce plan répond à des objectifs. D'abord, une performance des équipes régionales pour maîtriser l'outil dans le domaine de la réconciliation et la cohésion sociale. Les conflits au niveau du Delta et au niveau de la zone exondée font que Mopti aujourd'hui est devenu l'épicentre de la violence au Mali. Donc il faut que les mécanismes de réconciliation, de recherche de paix soient un outil mieux maîtrisé par les acteurs que nous sommes. Le deuxième aspect extrêmement important, c'est de faire des projections sur 2 ans. Pour ne pas aborder le programme sur un pilotage à vue. Parce que plus vous avez un calendrier bien élaboré, une vision mieux étayée, ceci vous permettait d'avoir des résultats stratégiques importants pour que la paix et la tranquillité soient dans la région de Mopti.
La région de Mopti, il faut le rappeler, est une zone cosmopolite riche de sa diversité ethnique, culturelle et linguistique, appréciée de tous. Mais aujourd'hui, elle vit une autre réalité peu reluisante. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Africa.
Ici aux États-Unis, à l'initiative d'une organisation non gouvernementale basée à New York, la police de la ville et le FBI et d'autres agences fédérales se sont mises ensemble pour informer la jeunesse musulmane de la ville des opportunités d'emploi. Anshuman Abt était présent à cette rencontre au cours de laquelle il s'est entretenu avec les représentants de ces agences, les organisateurs et les participants sur les enjeux de la rencontre. Son reportage avec Irénée Herman-Ngbo.
Kingsborough College à Brooklyn, New York. C'est ici que ces jeunes musulmans sont venus découvrir d'eux-mêmes ce que les différentes forces de l'ordre ont à offrir comme opportunité. Parents, famille, amis et alliés ont également répondu présents à cet événement spécial, une initiative du Conseil pour l'Organisation des Peuples, une organisation à but non lucratif qui aide à New York les familles d'immigrants asiatiques et musulmans à faible revenu. Mohamed Razvi est PDG du COP.
C'est un événement unique qui réunit toutes les agences étatiques et fédérales. Je veux dire, du plus petit au plus grand. Le NYPD, le FBI, le service secret, elles sont toutes ici. Elles veulent faire connaître leur travail aux jeunes. Nous voulons aussi que nos jeunes se connectent à elles, sans crainte ni pression, et qu'ils sachent qu'ils peuvent eux-mêmes se joindre à ces agences.
Devant ces participants, les représentants ont exposé une kyrielle d'opportunités de carrière, explique Matthew Fleming, du bureau du contrôle des armes à feu, de l'alcool et du tabac.
Des événements comme celui-ci nous permettent de faire connaître notre mission, d'éduquer les jeunes et les universitaires sur ce qu'est l'ATF et sur le rôle que nous jouons pour assurer leur sécurité.
Le lieutenant John Way replace l'événement dans son contexte.
Je suis ici pour sensibiliser les jeunes de la ville de New York afin de promouvoir les services des gardes-côtes sur des points qu'ils ignorent.
Pour certains participants, c'est une introduction révélatrice à une éventuelle carrière professionnelle. C'est le cas pour l'étudiante Amina Ibrahim.
J'ai appris qu'ils essaient vraiment d'intégrer tout le monde dans leur profession. Pour moi, en tant que musulmane qui porte un foulard, le simple fait de savoir que je peux exercer cette profession sans aucun problème m'a été très utile.
Écoutons Abdallah Arshad, étudiant.
J'aime la concurrence et toutes les agences sont compétitives. J'aimerais bien rejoindre ces genres d'agences dans le futur.
Les organisateurs espèrent que des événements comme celui-ci permettront de combler le fossé entre les communautés musulmanes et les forces de l'ordre. De nouveau, Mohamed Razvi du Conseil pour l'Organisation des Peuples.
Lorsque ces agences recrutent nos jeunes, ils apprennent d'eux. Qu'apprennent-ils ? Ils apprennent d'une nouvelle recrue pakistanaise ou musulmane, par exemple, que si quelqu'un porte un chalwar, pantalon traditionnel au-dessus du genou, cela ne signifie pas qu'elle est extrémiste ou terroriste. Cela signifie simplement que la personne est habillée pour prier. Ainsi, les agences apprennent progressivement à connaître notre foi.
Le Conseil pour l'Organisation des Peuples organise cette journée des carrières depuis 2011. Des centaines de personnes ont assisté à l'événement de cette année et les organisateurs espèrent une participation encore plus large dans les années à venir.
Merci Irénée. Le rapporteur de l'ONU sur la Corée du Nord a appelé Pyongyang à une amnistie permettant de libérer des centaines de prisonniers dans le contexte de la tenue du sommet historique entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump. Lors d'une conférence de presse, M. Thomas Ogea Quintana a estimé qu'une amnistie générale serait un très important signal du gouvernement pour ce qui est de leur volonté de s'engager envers les principes des droits de l'homme de l'ONU. Et puis le président afghan, Ashraf Ghani, a annoncé aujourd'hui un cessez-le-feu temporaire avec les talibans à l'occasion des fêtes de l'Eid el-Fitr marquant la fin du Ramadan dans un message sur son compte Twitter. Ce cessez-le-feu sera observé à partir de lundi. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.